Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Carchemish se trouve sur la rive droite de l'Euphrate, à 100 km au nord-est d'Alep. Il s'agit de l'endroit où, après avoir traversé la chaîne montagneuse du Taurus, l'Euphrate devient navigable en entrant dans une vallée fertile, aujourd'hui partiellement inondée par plusieurs barrages. Le site de Djerablus, l'antique Carchemish, se trouve aujourd'hui à cheval sur la frontière qui sépare la Turquie de la Syrie et qui suit le tracé de la voie ferrée conduisant jadis d'Istanbul à Bagdad. Sur les 90 hectares du site, 55 constituent la ville haute et se trouvent en Turquie et 35 seulement se trouvent en territoire syrien. C'est en 1874 que le consul britannique à Alep identifia le site, ce qui fut confirmé par George Smith en 1876 lorsqu'il revint de sa troisième expédition à Ninive et vous savez sans doute qu'il devait mourir peu après à Alep. Entre 1878 et 1881, le consul Patrick Anderson fit des sondages pour le compte du British Museum et vous voyez ici un montant de porte en basalte avec une inscription en louvite hiéroglyphique. De véritables fouilles furent entreprises à partir de 1911 par David Hogarth. Elles sont connues notamment en raison de l'identité de deux assistants de Hogarth dont les noms devaient devenir légendaires, Leonard Woolley, le futur fouilleur d'Our, et surtout Thomas Lawrence, qui devait peu après devenir Lawrence d'Arabie. Dans le courant de la première campagne, Hogarth dut rentrer en Angleterre, ayant été appelé à remplacer Sir Arthur Evans, le fouilleur de Knossos, comme conservateur en chef de l'Ashmolean Museum d'Oxford. Woolley prit le relais, dirigeant 5 campagnes, une au printemps et une à l'automne de chaque année, quelle époque, jusqu'en 1914. Il a raconté cette expérience dans un livre, il faut dire bien oublié, Dead Towns and Living Men, publié en 1920, mais rédigé en grande partie pendant les années durant lesquelles Woolley était prisonnier de guerre. Après la guerre, avec l'accord du général Gouraud, alors haut commissaire pour la Grande Syrie, une dernière campagne eut lieu brièvement en 1920 avant que n'éclate la guerre d'indépendance turque et que Woolley ne soit contraint de renoncer définitivement à son projet. Et c'est parce qu'il était disponible que la fouille d'Our, qui avait débuté en 1919 sous la direction de Hall, lui a été confiée à partir de 1922. Les fouilles britanniques se heurtèrent à un obstacle, la présence de vestiges hellénistiques importants, la ville ayant été refondée sous le nom de Europos. Qu'à cela ne tienne, après avoir été fouillée, ces bâtiments ont été détruits, chose qui serait impensable de nos jours, et on a donc poursuivi en dessous, mettant au jour les constructions plus anciennes qui étaient celles qui intéressaient les fouilleurs. Datant de l'âge du fer, aux époques néo-hittites et néo-assyriennes, ces couches ont livré des statues et des bas-reliefs en basalte, dont un certain nombre portaient des inscriptions en louvite hiéroglyphique. Une partie de ces découvertes se trouve au British Museum, une partie au musée d'Ankara, le reste étant demeuré sur place. Et ces fouilles ont donné lieu à une publication en 3 forts volumes entre 1914 et 1952, dont l'essentiel est dû à Woolley. Entre 1956 et 1998, le site a été miné par l'armée turque, et puis ensuite il a été déminé, cette opération ayant pris fin en 2011, ce qui a permis la reprise des fouilles. Une équipe turco-italienne dirigée par Niccolo Marchetti a réuni les universités de Bologne, Gaziantep et Istanbul, les épigraphistes étant Hassan Perker pour le Hittite et Gianni Marchesi pour l'Akkadien. Pas moins de 8 campagnes ont eu lieu jusqu'en l'été 2019 et le site est désormais devenu un parc archéologique. Finalement, on est dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle d'Alep. Le site est connu, en partie fouillé, mais on n'y a pratiquement rien trouvé qui remonte à l'époque du bronze moyen, l'époque paléo-babylonienne, si vous préférez, à part un petit secteur de la zone du palais inférieur et un sondage en profondeur au chantier G. Et c'est donc de l'extérieur, et notamment de Marie, que proviennent les données textuelles qui vont nous livrer des informations. Alors on commencera par la présentation de la capitale et du premier roi connu à Plaranda, ainsi que de son entourage. Nous étudierons ensuite divers aspects de la vie politique, économique et juridique de Carchemish, et nous finirons par analyser ce qui se passa au moment de la mort d'Aplaranda et sous ses deux successeurs. On sait que chaque ville mésopotamienne avait une divinité principale. C'est notamment celle par laquelle étaient prêtés les serments. Mais nous n'avons aucun contrat de cette époque rédigé à Carchemish qui comporte un serment. Et la question de la divinité principale de la ville de Carchemish est liée, par ailleurs, à l'étymologie du toponyme lui-même. Giovanni Pettinato avait proposé de le comprendre comme « car Camish », le quai du dieu Camish, un dieu qui est plus connu sous sa forme plus récente de Kamosh dans le pays de Moab. Récemment, Gianni Marchesi a remis cette étymologie en doute. Son point de départ est un sceau acheté par le British Museum en 1856 qui comporte une inscription en trois lignes « Camish Malik, fils de Rahmu Dagan, serviteur de Dingir Karkamish ». Alors, le nom du propriétaire ne pose pas de problème, il signifie « le dieu Camish est roi », et il est évidemment difficile de ne pas le mettre en rapport avec la dévotion qui figure à la ligne 3. Et du coup, la question est de savoir comment comprendre le nom divin de la ligne 3. Marchesi estime qu'il n'y a pas d'exemple où le nom de la ville de Carchemish serait divinisé, ce qui est juste, on le sait pour d'autres villes comme Achour, par exemple, ou Yablia. Et donc, il a proposé de comprendre « il » Carchemish, c'est-à-dire donc le dieu de Carchemish, et ça ne fait que reculer la question qui est ce dieu de Carchemish. À l'époque hittite et néo-hittite, le principal dieu local était un guerrier nommé Karhura, qu'on suppose être un dieu hourrite introduit à l'époque mitannienne, donc une nouveauté dans la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et du coup, se repose la question du dieu Camish pour le troisième et le début du deuxième millénaire. Il faut reconnaître que Camish est un dieu assez évanescent dans les écrits de l'époque amorite. On a quelques noms théophores, Idin Camish à Toutoul et à Marie, Rabdou Camish à Marie, et Marchesi estime qu'il serait étrange d'avoir si peu de traces de ce dieu si c'était la divinité principale de Carchemish. Mais je pense que, sur le principe, il n'a sans doute pas raison, parce que si on regarde, en ce qui concerne Marie, les noms théophores d'Itourmer, Itourmer étant la divinité principale de la ville de Marie, eh bien, on n'en a pas beaucoup. Par ailleurs, Marchesi insiste sur la différence de graphie entre le nom du dieu Camish et le nom de la ville. Mais ça n'est justement pas le cas sur ce sceau. Et là, il faut dire qu'il a un petit peu brouillé les données parce qu'il transcrit tantôt Ish et tantôt Isde, alors qu'en réalité, c'est le même signe. Mais il veut faire une différence entre le dieu Camish et la ville de Carchemis. Marchesi cite alors une lettre attribuée à Tsidkoum Lanassi, on verra plus tard que c'est sans doute une erreur, qui demande que des comptes soient réglés dans le temple du dieu puissant, ce temple étant mis en parallèle avec le temple d'Itourmer. Et comme la fin de la lettre mentionne Zimrilim et le roi de Carchemish à Plaranda, Marchesi suppose que le dieu puissant, c'est le dieu principal de Carchemish, de la même façon que les Itourmer à Marie. Le problème, c'est que Ilum Danum, à nouveau, ça n'est pas un nom propre. Et donc, quel est le dieu qui pourrait être ainsi décrit? Marchesi estime que ça pourrait être Nergal, parce que dans le code d'Amourabi, il est décrit comme Danum Ina Ili, puissant parmi les dieux. On avouera que l'argument n'est pas très contraignant. Pour conforter sa conclusion, Marchesi cite une lettre du fils d'Aplaranda où le nouveau roi de Carchemish indique que pour agir, il a besoin d'interroger le dieu Nergal. Jean-Robert Cuper avait indiqué dans son édition de ce texte « Restitution de Jean-Marie Durand, qui me signale que Nergal semble être la divinité principale de Carchemish ». Et Marchesi a repris cette idée, mais le passage est extrêmement cassé. Il ne reste qu'un début de signe qui pourrait tout aussi bien être la moitié d'un im que la moitié d'un étroit, le début de Nergal. Ce qui m'étonne, c'est que nulle part, Marchetti et Marchesi n'envisagent que la divinité de Carchemish ait pu être une déesse. Or, Kubaba est définie dans l'inscription de Katoua que j'ai montrée tout à l'heure d'une façon assez claire. « Ma souveraine Kubaba, la reine de Carchemish, m'a pris par la main, elle m'a toujours livré mes ennemis, mais ne m'a jamais livré à mes ennemis. » Et sans citer cette inscription, Douglas Frayne, dans Rime 4, notait que Kubaba était la divinité tutélaire de Carchemish. La question reste donc ouverte et on y reviendra un peu plus tard. Avec Aplaranda, nous allons dresser le portrait d'un roi qui est connu aussi bien sous Yasmaradu que sous Zimrilim. Il a fallu attendre 1938 pour apprendre qu'Aplaranda était roi de Carchemish dans la première moitié du XVIIIe siècle, et il y a eu à ce sujet une sorte de rivalité entre deux membres de l'équipe des épigraphistes de Marie. Je vous rappelle que François Thureau d'Angin avait été chargé par André Parot d'examiner les tablettes qu'il envoyait de la Syrie au Louvre, campagne après campagne, à partir de 1934. Et Thureau d'Angin avait réparti les milliers de lettres découvertes dans l'hiver 1935-36 dans la salle 115 du palais entre Georges Dessin et l'abbé Charles-François Jean. Il se trouve que Dessin devait faire une communication sur Aplaranda au 20e congrès international des orientalistes qui se tenait à Bruxelles début septembre 1938. Jean, l'ayant appris, lui communiqua une lettre de son lot qu'il avait déchiffrée. Et finalement, Dessin a publié sa communication dans la revue d'Assyriologie que dirigeait Thureau d'Angin, et Jean publia à la suite un article d'une page consacré à l'édition de cette lettre. Aujourd'hui, c'est pas moins de 66 références à Aplaranda que l'on possède dans les textes de Marie publiés. On a beaucoup écrit sur l'étymologie du nom de ce roi. Je ne vais pas faire le florilège des erreurs, mais je vais aller immédiatement au résultat. Il faut comprendre ce nom comme Aplaranda. Anda, variante de Adda, étant une forme du nom du dieu Addu, comme l'a montré Jean-Marie Durand. Et on trouve aussi la graphie Aplehandu. Et j'ajouterai à sa démonstration un argument supplémentaire, c'est le nom Aplar Kubi, qu'on trouve dans un texte administratif et qu'on peut décomposer en Aplar plus Kubi, Aplar étant une forme du verbe palarum, craindre, vénérer, et Kubi étant une divinité. Dans la forme verbale, la voyelle fondamentale est généralement A, mais parfois colorée en E, donc on a Aplar Anda ou Aplar Andu, mais le plus souvent c'est Aplar Anda. Et l'étymologie est confirmée par la graphie Aplaranda, récemment attestée dans deux lettres publiées par Jean-Marie Durand. Le nom signifie par conséquent « J'ai révélé Anda ou Andu », autrement dit Addu, le dieu de l'orage. Deux empreintes de sceaux sont considérées comme témoignant que Aplaranda posséda deux sceaux différents. Ces empreintes ont été retrouvées au centre de l'Anatolie sur le site de Hadjameyuk, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de la ville actuelle d'Aksaray. Ce site a été fouillé à partir de 1962, au départ sous la direction de Nimet Özgüç, et elle a notamment exhumé un grand palais où l'on a retrouvé notamment des empreintes de sceaux de Samsiadou lui-même, de Yardunlim, ou encore d'un individu connu comme métallurgiste à Marie. Et puis, on a trouvé des empreintes de deux sceaux de Aplaronda. Le premier, eh bien, on a une légende qui, curieusement, tient sur une seule ligne où on lit simplement Aplaronda. Tunja, suivi par Marchesi, a donc supposé que c'est un sceau qui avait appartenu au roi et non pas à un de ses serviteurs. Et une deuxième photo qui a été publiée par Dominique Colomb permet d'être sûr que le signe ne comportait pas d'autres signes cunéiformes. On a plusieurs empreintes de ce sceau, alors que le sceau numéro 2 n'est connu que par une seule empreinte sur une étiquette, et Marchesi a amélioré le déchiffrement de Tunja. À partir de cette photo, il a proposé de lire « Aplaronda, fils de Radni Anda, roi de Carchemish ». Et quand on regarde la copie et la photo, les restitutions sont tout à fait convaincantes. Mais il n'a pas remarqué que, du coup, Aplaronda est le fils de quelqu'un qui s'appelle Radni Anda, et ceci ressemble, avec une graphie différente, au nom du père biologique de Zimrilim, qui s'appelait Radni Addu. Alors, a priori, il s'agit d'un homonyme, mais cette ressemblance pose quand même question. On aimerait bien sûr savoir ce que contenaient les ballots auxquels ces étiquettes scellées étaient attachées et déterminer s'il s'agissait de présents diplomatiques ou de marchandises. Quoi qu'il en soit, en dehors de l'intérêt propre de ces légendes, ces étiquettes scellées témoignent d'échanges entre Marie, Carchemish et le cœur de l'Anatolie, et on reviendra bientôt sur cette question. La famille et l'entourage de Aplaronda sont connus par des textes de Marie et aussi par un certain nombre de sceaux cylindres dont on a retrouvé la matrice ou seulement des empreintes sur argile. Eh bien, il me manque... Ah oui, voilà, pardon. Je suis passé trop vite, excusez-moi. Donc, on a un petit document administratif qui enregistre des apports de jarres de vin, de miel et d'huile. Jean Bottero, dans sa première édition, n'avait pas identifié correctement le deuxième nom et pas lu du tout le troisième, et c'est Hervé Reculot qui a collationné l'original au musée des Trésors, qui l'a réédité, et la tablette a depuis été republiée, et on voit donc qu'on a des apports par Aplaronda, par une femme qui s'appelle Nabitsatum, et par un individu qui s'appelle Tsitkum Lanassi. Et vu ce qu'on sait des apports du même genre de la part de la cour d'Alep, Yarimlim, Gachera, Tabbalati, eh bien, il paraît à peu près certain que cette Nabitsatum qui suit Aplaronda était l'épouse d'Aplaronda. Et Tsitkum Lanassi, nous le verrons, était sans doute le premier ministre, et c'est sa plus ancienne attestation. Il existe en outre des étiquettes découvertes à Adjemuyuk qui correspondent à un sceau qui pourrait être celui d'une reine, mais le déchiffrement en est trop incertain pour que l'on puisse pour l'instant aller plus loin. On connaît également le sceau d'une fille d'Aplaronda nommée Matrunna, qui a été repérée chez un antiquaire de Latakié en 1928, et qui a fini par être acquis par le Louvre en 1991. Contrairement à ce qu'on trouve encore écrit régulièrement, ce sceau, malgré ce qu'avait indiqué Virolo initialement, ne provient pas du site de Ras Chamra, il a été trouvé chez un antiquaire. Ce sceau, donc, a pour légende Matrunna, fille de Aplaronda, servante de Kubaba. Alors, Marchesi la considère comme une grande prêtresse de Kubaba, mais ça n'est qu'une déduction. Sur son sceau, cette femme n'est pas décrite comme l'épouse d'un homme, mais la légende de son sceau ne donne pas son titre, donc c'est vraisemblable, mais ça n'est pas tout à fait certain. La personne de l'entourage royal la mieux connue se nommait Tsitkum Lanassi. Sa correspondance, qui compte 23 lettres, a été publiée et commentée par Bertrand Lafont. De Saint et Jean l'avait décrit comme ambassadeur de Zimrilim à Carchemish, En réalité, le véritable représentant de Zimri-Li Mark Akribish, c'était Ishtaran Natsir. Et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Tzidkoum Lanassi était un ressortissant de Karkemish, comme l'a montré le texte ARM 25-333, où il est qualifié de « homme de Karkemish ». On ne possède aucune attestation de son titre, mais l'étude d'ARM 23-524 laisse penser qu'il était premier ministre du roi de Karkemish. En effet, on voit des quantités d'étain qui sont données à Aplaranda, qui est qualifié de roi de Karkemish, Shennam, roi d'Oursou, Tzidkoum Lanassi, sans titre, Aplaranda, Soukal de Shennam, et ensuite Yarimlim et Gachera. Et donc, on a l'impression que si le titre du deuxième Aplaranda, Soukal de Shennam, est donné, c'est parce qu'il y avait un risque de confusion avec le premier Aplaranda, le roi de Karkemish. Mais la logique de la séquence, deux rois, donc A, B, puis ensuite on a C et on a D, D étant le premier ministre de B, du coup, eh bien C doit être le premier ministre de A. Et le contenu des lettres de Tzidkoum Lanassi confirme tout à fait cette analyse, et on le retrouvera dans la suite du cours. Et puis on a d'autres sceaux ou empreintes de sceaux qui révèlent d'autres membres de l'entourage d'Aplaranda, mais qui ne sont pas autrement connus. Le décor étant maintenant planté et les personnages mis en place, eh bien, il nous faut animer la scène, et on va le faire en examinant successivement certains aspects de la vie politique, économique et juridique sous le règne d'Aplaranda, qui est de loin le souverain dont le règne a été le plus long. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de l'histoire politique, on a déjà eu l'occasion de rencontrer Karkemish antérieurement, je vous indique simplement un certain nombre d'éléments bibliographiques et je passerai tout de suite à certains éléments qui datent de l'époque de Zimri-Lim. On a des textes administratifs qui montrent à la fois la proximité diplomatique d'Alep et de Karkemish, mais aussi la puissance plus importante de la première. C'est ce que révèle, par exemple, ce petit conte qui date de l'an 6 de Zimri-Lim et qui enregistre l'apport de deux vases en argent qui pèsent au total 784 grammes par le roi d'Alep Yarimlim, et un vase en argent qui ne pèse que 240 grammes par Aplerandu, donc Aplaranda, le roi de Karkemish. Par ailleurs, on sait que Karkemish a été invité à se joindre à la grande coalition qui a uni toute une série de royaumes, à commencer par ceux de Babylone et de Mari, au moment où les Élamites ont fait leur grande invasion, ce dont on a déjà parlé l'année dernière. Et Michael Guichard a publié une lettre très intéressante à cet égard. C'est pas A 10743, c'est M 10743, excusez-moi. Ce document se présente comme une lettre adressée à Aplaranda par Zimri-Lim. Le roi de Mari rappelle à son homologue de Karkemish l'entretien qu'ils ont eu ensemble avec le roi d'Alep et la décision prise que Zimri-Lim parte sauver la ville de Razama. Et Zimri-Lim lui demande d'écouter le message du roi de Babylone et de lui envoyer des troupes en renfort. Alors cette lettre pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est sa présence dans les archives du palais de Mari. Ça n'a rien d'unique. On connaît des cas de brouillons, de copies ou encore de lettres qui n'ont pas été envoyées à leur destinataire. Et Michael Guichard avait opté pour cette dernière catégorie parlant d'un nouvel exemple de lettre du roi de Mari non postée. Mais beaucoup plus étrange, c'est le fait que cette lettre a été manifestement écrite par un scribe babylonien, ce que montre la graphie, le syllabaire et quelques éléments stylistiques. Et donc, Michael Guichard avait conclu que Zimri-Lim utilisa pour cette lettre les services d'un scribe babylonien. Pour écrire au roi de Karkemish, on est un peu étonné. Et le phénomène serait sans parallèle. Toutes les lettres babyloniennes qu'on a retrouvées dans le palais de Mari sont soit adressées à Zimri-Lim, soit adressé à des Babyloniens en résidence dans le royaume de Marie. Et il m'a donc semblé qu'une autre explication était possible. Il n'est pas rare, en effet, qu'un roi ou un proche d'un roi suggère à son souverain les termes de la lettre qu'il souhaite lui voir envoyer à un autre monarque. Mais dans tous les cas connus jusqu'à présent, la lettre suggérée au roi, elle est incorporée à une lettre qui lui est envoyée. On aurait ici un cas un peu différent. Hammurabi aurait envoyé à Zimrilim séparément le texte de la lettre qu'il souhaitait que le roi de Marie fasse recopier par son scribe et envoyer à Aplaranda. Alors, cette interprétation est confortée par deux indices. Le fait qu'il soit question d'aller sauver Azama, qui est exactement l'expression qu'on trouve dans les lettres d'Hammurabi de Babylone lui-même, que l'on connaît à propos de ces événements. Et surtout, on voit que, par deux fois, Zimrilim est censé conseiller à Aplaranda de bien faire attention aux paroles d'Hammurabi. Celui-ci ne peut être que le roi de Babylone parce que, au moment de la rédaction de cette lettre, Yarimlim était encore sur le trône d'Alep. Donc, clairement, Hammurabi de Babylone souhaitait que Zimrilim serve d'intermédiaire entre lui-même et le roi de Carchemish pour que ce dernier envoie des troupes et obtienne que les autres alliés, au premier rang desquels Yarimim d'Alep, fassent de même. Donc tout ça pour repousser l'invasion élamite. Alors, ce cas permet de poser plus généralement un problème de méthode. Donc je l'ai dit, généralement, quand on a des lettres écrites par Yasmaradou ou par Zimrilim retrouvées dans le palais de Marie, on dit que ce sont des brouillons, des copies ou des missives qui n'ont jamais été envoyées. Eh bien, je pense qu'il faudrait désormais toutes les relire systématiquement pour voir si certaines ne relèvent pas d'une quatrième catégorie identique à celle-ci, ce qu'on pourrait appeler une lettre suggérée. Passons à l'économie. Pour une approche des relations économiques de Carchemish avec son environnement, il faut étudier à la fois les documents comptables et les lettres et avant tout la correspondance de Tsidkoum Lanassi. La gamme des produits exportés par Carchemish en direction de Marie était très étendue. On trouve en tête le vin, produit des vignes de la région, mais aussi les céréales. Carchemish a été un pourvoyeur essentiel du palais de Marie en grains lorsque celui-ci était en déficit et les négociations impliquaient parfois le déplacement de très hauts dignitaires. C'est ainsi que Tsidkoum Lanassi se rendit une fois à Marie dans un tel contexte et qu'inversement, le ministre de l'économie de Zimrilim, Yassim Soumou, voyagea au moins une fois jusqu'à Carchemish, on en a parlé l'année dernière, et les deux hommes ont d'ailleurs échangé des lettres dont certaines nous sont parvenues. Marie dépendait aussi de Carchemish pour des matières premières essentielles comme le bois et les minerais. Un petit compte de l'année 6 de Zimrilim enregistre 7 talents de cuivre de montagne qui ont été achetés à Tsidkoum Lanassi, homme de Carchemish, donc une quantité considérable. Un talent, c'est 30 kilos. Et la précision cuivre de montagne indique qu'il s'agit de cuivre venu des montagnes d'Anatolie, au contraire du cuivre originaire de l'île de Chypre, qui est également attesté à Marie. Un élément remarquable est constitué par les chevaux. On sait que Zimrilim en était friand. Et une lettre acéphale, mais qui émane sans doute de Tsidkoum Lanassi, reproduit un dialogue avec le roi Aplaranda. Donc c'est une lettre adressée à Zimrilim. Autre affaire, je lui ai parlé des chevaux blancs, écrit Tsidkoum Lanassi à Zimrilim, et il, c'est-à-dire Aplaranda, m'a répondu, il n'y a pas de chevaux blancs d'attelage pour char, je vais écrire pour qu'on amène des chevaux blancs de là où il y en a, mais en attendant, je vais lui faire conduire des chevaux bais harsamnites. Voilà ce qu'il a déclaré, et pour l'heure, ce sont bien des chevaux bais, et puis malheureusement, ça se casse. Donc, l'origine de ces chevaux blancs, c'était la ville de Harsamna, qu'on sait à peu près située en Anatolie, et c'est une mention qui avait été relevée dès 1938 par Dossin. Ces produits étaient en principe soumis à une taxe douanière, le Mixum, dont nous avons parlé la semaine dernière, et une lettre de Tsidkoum Lanassi à son ami Askoudoum, le dignitaire Mariotte, demande que ces bateaux en soient exemptés. On a déjà vu ce genre de demande la fois dernière. Malgré l'absence de documentation découverte sur place, quelques aspects de la vie juridique à Carchemish peuvent être esquissés grâce à des textes découverts à Mari. Le premier point concerne un procès relatif à Askoudoum. Dans les archives de Mari, la majorité des attestations d'Askoudoum concernent le devin qui était devenu sous Imrilim un des plus hauts dignitaires du royaume, comme on l'a vu l'an dernier. Mais il existe aussi des références à un Askoudoum qui conduit des affaires commerciales. En 1988, Jean-Marie Durand, publiant la correspondance d'Askoudoum, avait préféré dissocier l'Askoudoum devin et l'Askoudoum marchand. Mais dans son étude de 2010, il est revenu sur cette distinction, préférant considérer que c'était le notable qui avait aussi des activités marchandes. Dans l'adresse de la lettre qui nous fait connaître le procès que nous allons étudier maintenant, le nom de l'expéditeur a disparu, mais celui du destinataire a subsisté à Monseigneur Zimrilim, et cette formule montre que l'auteur de la lettre est un étranger au royaume de Mari. Les sujets du roi de Mari écrivent toujours simplement à Monseigneur, sans préciser le nom du roi. Et pour bien comprendre cette affaire, eh bien, il faut commencer par lire la fin de la lettre. La voici. Alors qu'il y avait de nombreuses affaires contre lui, c'est-à-dire Askoudoum, je n'en avais parlé à personne, écrit l'auteur de la lettre. Mais lui, c'est-à-dire Askoudoum, a répété des propos hostiles à mon encontre. Il a exposé ses affaires par devant Monseigneur Zimrilim et Aplaranda. Que Monseigneur voit comme il est inamical et quelles sont ses fautes. Donc on voit que l'auteur de la lettre reproche à son adversaire d'avoir tenu les rois Zimrilim et Aplaranda au courant de leurs différends, alors que lui-même avait préféré jusqu'alors rester discret. Donc clairement, il s'agit d'un procès qui oppose Askoudoum, ressortissant Mariotte, à quelqu'un qui se trouve à Carchemish, puisque Aplaranda est mentionné. Alors maintenant, on peut revenir au début de la lettre. Dit à Monseigneur Zimrilim, ainsi parle un tel, ton serviteur. Monseigneur m'a écrit au sujet d'Askoudoum en ces termes. Selon ce que tu m'as écrit, l'histoire entre vous est grave. Il ne faut pas qu'il y ait d'histoire entre vous. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. En fonction du courrier de Monseigneur, les serviteurs de Monseigneur, c'est-à-dire Utukam, Yahouila, Shamashredi et Manum Kibelia, le serviteur d'Askoudoum, ainsi que les marchands du Karoum de Sipar, ont siégé. J'ai dit que l'on apporte l'arme de Shamash et par-devant l'arme de Shamash, jugez justement l'affaire. Ayant siégé, ils ont établi que l'individu dont je m'étais saisi était mon serviteur et mon assistant Shamalloum, et ils ont établi que je n'avais rien pris appartenant à Askoudoum. À présent, Monseigneur peut interroger Shamashredi et Manum Kibelia, son serviteur, c'est-à-dire celui d'Askoudoum, pour qu'il lui parle et que Monseigneur voit que je ne suis redevable de rien. En relisant cette première partie de la lettre, je me suis rendu compte qu'on pouvait en donner une interprétation bien différente de celle proposée par son éditeur et qui a des conséquences très importantes pour notre connaissance du commerce à longue distance. Premier point, l'auteur de la lettre, accusé par Askoudoum de lui avoir volé un serviteur, est un marchand. En effet, ce serviteur est qualifié de Shamalloum et on sait que ce terme désigne l'assistant d'un marchand lui-même désigné par le mot Tamkaroum. Deuxième point, Jean-Marie Durand avait considéré que le procès avait eu lieu à Sipar puisqu'il était question du dieu Shamash et il a été suivi par Martin Stoll dans son article sur l'utilisation des armes divines, ces symboles divins qui intervenaient dans les procès. Eh bien, je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce que si l'affaire avait eu lieu à Sipar, l'autre roi mentionné aurait dû être Hammurabi de Babylone et pas à Plaranda. Et donc, il me semble qu'il faut considérer que le procès a eu lieu à Carchemish. Alors, comment comprendre le recours au Karum de Sippar et à l'arme de Shamash? Eh bien, il me semble, tout simplement parce que le marchand accusé serait un ressortissant de Sippar. Ce qui a jusqu'à présent empêché d'y penser, c'est que la lettre est de style mariote et pas babylonien. La forme des signes, le recours à la syllabe « ka » et non pas « ga » sont des marqueurs indéniables. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à l'époque, j'avais proposé à Jean-Marie Durand de considérer que l'auteur de la lettre pourrait être Tsidkoum Lanassi. Il m'avait suivi, non sans prudence, tandis que Gianni Marchesi, qui a suivi Jean-Marie Durand, a oublié le point d'interrogation que Jean-Marie Durand avait mis dans sa restitution. Aujourd'hui, cette hypothèse me paraît impossible, et donc je crois que le plus simple, c'est que, s'adressant au roi de Marie, eh bien, le marchand sipariote a eu recours à un scribe local. Troisième point, on savait déjà qu'il avait existé un karum, donc un comptoir commercial de Sippar à Marie et à Michelin, d'après une lettre plus ancienne qui remonte à la première moitié du XIXe siècle et qui a été découverte dans l'une des villes de Sippar à Tel Edder, qui avait été cité en 1960 et récemment édité complètement par Rinsteber. Elle commence ainsi. « Dit à notre Seigneur Hamoussoura, ainsi parle le Karum de Sippar qui demeure à Marie et Michelin. » Donc, on voit désormais que le Karum de Sippar, organisme qui regroupe ce qu'on pourrait appeler la guilde des marchands, avait une filiale non seulement à Marie, mais également plus en amont sur l'Euphrate à Carchemish. Une fois cela établi, la procédure décrite dans la lettre devient très claire. Il s'agit d'une procédure contradictoire. On a d'un côté les serviteurs de Monseigneur Utukam, Yawila, Shamashredi et Manum Kibelia, soit quatre mariottes, et puis de l'autre, les marchands du Karum de Sippar, dont la lettre ne donne ni le nombre ni les noms, parce que ce n'était pas le problème du roi de Marie, bien sûr. Et on peut vérifier l'identité de certains des mariottes mentionnés. Alors, Utukam est seulement attesté comme scribe à Andarig, peut-être un homonyme, mais Yawila est mentionné parmi les serviteurs de confiance de Zimrilim, dans un texte de ARM 33, un procès que nous avons étudié il y a 2 ans, pour les plus fidèles d'entre vous. Quant à Shamash Redi, eh bien, une lettre de Yakimadou confirme que c'est un serviteur du roi de Marie, et le pauvre d'ailleurs, se rendant, comme par hasard, depuis Carchemish jusqu'à Marie, avec un compagnon anonyme et un messager de Carchemish, eh bien, a été agressé par un groupe de 4 nomades ouprapéens et Shamash Redi et son compagnon ont été exécutés. Et après sa mort, eh bien, son fils est mentionné dans une lettre du chef des marchands de Marie qui précise que ce Shamash Redi était un marchand de Dour Yardoulim. Mais on peut et on doit aller plus loin en dressant un parallèle avec les procès connus par les archives des marchands assyriens, dont le comptoir Karum était installé à Kanesh, au cœur de l'Anatolie. Et je rappellerai ici l'appel lancé par Klaas Venhoff il y a 12 années pour développer l'étude comparée des domaines paléo-babyloniens et paléo-assyriens. On sait que les affaires des marchands assyriens étaient réglées à Kanesh, je cite, « devant le poignard d'Ashur ». Autrement dit, devant l'arme du dieu de leur capitale. Et Thomas Hertel a montré qu'il en allait de même dans tous les Karums et en particulier dans celui de Urshum. Eh bien, dans notre cas, de la même façon, le procès à Carchemish doit être réglé devant l'arme du dieu de Sippar, c'est-à-dire Shamash. Et il est vraisemblable que les témoignages ont été effectués en présence de l'arme du dieu qui pouvait par la suite s'en prendre à celui qui n'aurait pas dit la vérité. Gianni Marchesi commentant l'absence totale de référence à Carchemish dans les archives des marchands paléo-assyriens, avait rappelé l'existence dans un traité d'une clause interdisant à un prince anatolien de laisser des Acadiens entrer dans son territoire. Manifestement, les Assyriens, qui imposent ce traité, souhaitaient conserver le monopole du commerce. Et Marchesi ajoutait « Les Acadiens étaient vraisemblablement des marchands de Mésopotamie du Sud, remontant l'Euphrate jusqu'à Carchemish et au-delà, à la recherche de matières premières. » Eh bien, qui étaient ces marchands? L'évidence était sous ses yeux. Mais comme notre texte n'avait pas jusqu'à présent été compris correctement, on n'avait pas vu qu'il montrait l'existence d'un comptoir commercial, d'un karoum, des marchands de Sippar installés à Carchemish, plaque tournante du commerce entre la Mésopotamie centrale et l'Anatolie. Autrement dit, le commerce cappadocien peut désormais être vu comme ayant deux branches. J'y reviendrai dans la conclusion. On a par ailleurs un texte publié par Georges Boyer, qui a été réédité par Jean-Marie Durand, qui est une créance d'une demi-mine d'argent d'un certain Yataroum sur Yakimadou, en contrepartie des 15 cycles d'argent qui ont été versés pour son rachat à Carchemish. Et cette somme est à rembourser en argent au Karoum de Nihadoum ou en nature sous forme de 5 jarres de vin par cycle d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte a été rédigé à Carchemish. On ne sait pas très bien pourquoi il est arrivé dans le palais de Marie, mais on voit son caractère mixte parce que le mois, c'est le mois de Adnatoum, qui n'appartient pas au calendrier mariote et qui doit donc être un mois du calendrier de Carchemish, alors que le nom d'année, c'est la formule de l'an 4 de Zimrilim. Donc voilà qui est intéressant comme témoignage. Après cette vision structurelle de la politique, de l'économie et du droit, retour au temps court, nous allons voir ce que nous savons de la fin de vie d'Aplaranda et du règne de ses successeurs. Aplaranda semble avoir été en mauvaise santé à la fin de sa vie, avant de finir par décéder. Et on a un dossier qui est assez riche. On voit d'abord Shulhuraralu, le secrétaire de Zimrilim, lors d'une mission à Alep auprès du roi Hammurabi, informer Zimrilim au sujet de la maladie d'Aplaranda, dont j'avais entretenu mon seigneur. Hammurabi a envoyé Yataramum. Il est allé jusqu'à Dursumuepur, mais comme Aplaranda s'était remis, il s'est mis en route pour retourner vers Alep. Monseigneur est informé. Donc ce Yataramum doit être un médecin alépin et le passage a été exploité pour la localisation de la ville de Dursumuepur qui se trouvait manifestement sur la route entre Alep et Carchemish. Malade en sursis, Aplaranda a développé une dévotion particulière envers le dieu du monde infernal Nergal, comme le montrent deux lettres d'Ishtaran-Natsir à Zimrilim, qui ont été publiées par Nele Ziegler. Je me limiterai à lire la seconde. « Dis à mon Seigneur, ainsi parle Ishtaran-Natsir, ton serviteur. J'ai parlé à Aplaranda des musiciens Gersekoum pour lesquels mon Seigneur m'a envoyé. Comme je l'avais déjà écrit à mon Seigneur auparavant, c'est FM 9.9, il ne fait que vouer des musiciens à Nergal. Il a dit « Si jamais le musicien Gersekoum, à propos duquel Zimrilim m'a écrit, existe, mais que je le retiens, que ce dieu mette à l'épreuve Aplaranda, voilà ce qu'il m'a répondu. Et moi je lui ai répondu, puisque le désir pour lequel mon Seigneur m'a envoyé n'est pas réalisable, je dois partir. Mais que répondrai-je donc à mon Seigneur? Voilà ce que je lui ai dit, mais il ne m'a pas donné d'instruction en retour. » Alors en commentant ce dossier, Nele Ziegler avait noté: il est vraisemblable que, sentant sa mort prochaine, Aplaranda crut préférable de se propitier le dieu des enfers plutôt que son voisin Mariotte. Cette attitude pourrait paraître extraordinaire. En réalité, elle n'a rien d'exceptionnel. Analysant quelle fut l'attitude du roi de Babylone Hammurabi avant sa mort, au même moment, Rosel Pienka avait proposé de ne pas considérer les travaux effectués dans l'Emeslam, temple de Nergal, commémoré dans le nom de l'an 40 de Hammurabi, comme dû au hasard, il serait la marque de la piété du roi vieillissant envers Nergal, le dieu du monde infernal, et elle ajoute que la longue inscription rime 4, numéro 11, pourrait avoir le même contexte. C'est un texte qui commémore la dédicace par Hammurabi d'instruments de musique à Lugal Gudua et d'un étendard à Meslam Taea dans le temple de l'Emeslam, et on sait que ces deux divinités sont plus ou moins des figures de Nergal. Eh bien, on aurait donc tort de considérer cette analyse comme une surinterprétation des données. La mise en parallèle de l'attitude de Hammurabi de Babylone avec celle d'Aplaranda de Carchemish me semble renforcer les analyses de Rosel Pienka et Néle Ziegler qui avaient été publiées indépendamment en 2007. Finalement, Aplaranda mourut, et c'est ce que c'est Ishtar al-Natsir qui a pris la nouvelle à Zimrilim. Aplaranda est allé à son destin. 4 jours, jusqu'à ce que l'on eût terminé le sacrifice de Nubandag, on a caché la nouvelle. Le 18 de Kinunum, on a découvert l'affaire. Le deuil a dès lors été instauré. Présentement, Yataramoum, fils d'Abidagan, m'a écrit la nouvelle, que mon seigneur en soit informé. Et donc il est intéressant ici de voir comment, en raison d'une fête religieuse importante, la mort du roi a été tenue secrète pendant quelques jours. Nous savons que ce décès est intervenu au mois 7 de l'an 11 de Zimrilim, et dès le mois 11 de la même année, on enregistrait dans le palais de Marie un apport de vin de Yatar Ami. Ce Yatarami semble avoir été très jeune lorsqu'il succéda à son père, c'est ce que nous apprend une lettre de Tsidkoum Lanassi, qu'il dise, donc il s'agit de Yatarami, « Mon père Aplaranda n'est pas mort, il est toujours vivant puisque Zimrilim est mon père. » Et Tsidkoum Lanassi décrit au roi de Marie, « Yatarami est vraiment un fils pour toi, garde-le sous ta protection. » Et puisque son père est allé au destin, et que lui-même manque d'expérience, tu dois lui parler à cœur ouvert. Cependant, Yatarami devait également faire allégeance au roi d'Alep, qui était alors Hammurabi. Et il lui arriva de se trouver bien embarrassé à la suite de la victoire sur Azara, dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Zimrilim aurait voulu que Yatarami lui fasse parvenir une tour de siège, mais celle-ci appartenait au roi d'Alep. Et donc, Yatarami a écrit à Zimrilim « Au sujet de la tour pour laquelle mon père m'a écrit, et moi-même j'ai répondu, vu que je ne suis pas au courant des ordres de mon père d'Alep, cette tour que nous avons prise depuis Azara se trouve mise en place. Or, toi-même, du vivant de mon père, tu ne cessais d'écrire à mon père en ces termes, exécute les ordres de Yarimlim, donc le roi d'Alep. Ne transgresse pas la parole de Yarimlim. Voilà ce que tu n'as cessé d'écrire à mon père, et moi je l'ai entendu à maintes reprises. Quant à présent, depuis que je suis moi-même installé sur le trône de mon père, je suis ton fils et le fils de Hammurabi, donc qui avait succédé entre-temps à Yarimlim sur le trône d'Alep. J'exécute ce que Hammurabi m'ordonne, je ne transgresse pas d'un pouce l'ordre de Hammurabi. Au sujet de cette tour appartient bien à Hammurabi et j'ai eu peur de lui, voilà ce que je t'ai répondu. Et Yatarami suggère ensuite à Zimrilim de demander directement cette tour au roi d'Alep, mais le supplie de ne pas écrire que l'idée vient de lui. Yatarami est par ailleurs l'auteur d'un des textes les plus célèbres relatifs à Carchemish, qui avait été publié par Dessin en 1939 et qui a été réédité par Kuper. Dis à Zimrilim, ainsi parle Yatarami ton fils. À présent, ces deux hommes que j'ai envoyés avec Napsouna Adou, on les a mentionnés en ces termes à propos de cette affaire de la ville d'Irid dont on a entendu parler. Ils se sont entretenus avec Mébissa, le serviteur de Bounouma Adou. Ils étaient au courant de l'affaire. Alors là, je ne rentre pas dans le détail politique, mais Bounouma Adou était le roi de Nihria, dans la région du Haut-Balir, et menait des intrigues qui déplaisaient à la fois au roi de Carchemish et au roi de Marie. Et donc Yatarami continue. Or voici que je viens de faire conduire ces hommes à It, et on garde ici en prison leur accusateur. Ces hommes, qu'un de tes serviteurs de confiance les conduise à It avec Napsouna Adou. Si ces hommes sont saufs, je ferai brûler par le feu leur accusateur. Si les hommes meurent, ici, je donnerai leur maison et leurs gens à leur accusateur. Il faut que mon père me rapporte leur affaire. Alors, ce texte est célèbre pour de multiples raisons, mais d'abord parce qu'il s'agit d'une des premières descriptions d'Ordalie en dehors des textes normatifs comme le code de Hammurabi. Et Dossin avait justement souligné la parenté de ce texte avec le code d'Hammurabi, puisque le faux accusateur devrait éventuellement subir le châtiment qui aurait été celui de l'accusé s'il s'était révélé coupable, c'est-à-dire la peine de mort. Mais Dossin ne s'est curieusement pas posé la question de savoir en quoi Zimrilim devait intervenir dans cette affaire. Et c'est Jean-Marie Durand qui a compris cet aspect des choses en soulignant que les ordalies avaient lieu à Hit. L'écriture par idéogramme est en effet ambiguë, puisqu'on peut comprendre aussi bien aller au fleuve que aller à la ville de Hit. Les deux s'écrivent de la même manière. L'ordalie fluviale a bien existé en Mésopotamie, et j'en ai donné un exemple en 1992, où il s'agit de traverser un fleuve lesté d'une meule, et donc là, il y a véritablement un exploit sportif à accomplir. Mais ce qui se passait à Hit était vraisemblablement autre chose, comme l'a bien compris, je crois, Wolfgang Heimpel. Celui-ci s'est demandé: mais pourquoi donc les ordalies fluviales auraient eu lieu exclusivement à Hit? Eh bien, ce que Hit, s'il s'était agi d'une simple épreuve de natation, on aurait pu le faire n'importe où. Ce qui est particulier à Hit, c'est l'existence de puits de bitume. Les personnes soumises à l'ordalie devaient plonger dans un puits de bitume qui était à assez forte température et également qui s'accompagnait d'émanations de gaz toxiques. Donc si la personne qui avait plongé remontait, eh bien, c'est que le dieu l'avait reconnue comme innocente, et donc la personne avait gagné. Et cette présence de gaz toxiques et de chaleur, ça permet de comprendre pourquoi, dans la lettre de Yatarami, l'accusateur serait éventuellement soumis au châtiment par le feu, qui par ailleurs est extrêmement rare. On passe maintenant rapidement au règne de Yardunlim. Donc on a vu qu'au mois 11 de l'année 11 de Zimrilim, Yatarami avait succédé à Plaranda, mais dès le mois 6 de l'année suivante, Yardunlim est mentionné dans un envoi de cadeaux. Autrement dit, le règne de Yatarami a duré moins d'un an. Et à la suite de Yardunlim figure le nom de Tsidkumlanasi. Donc on voit que celui-ci a continué d'exercer sa charge de premier ministre, ce qui est un indéniable signe de continuité. On possède un fragment de statue de Yardunlim qui avait été découvert par la mission britannique, et Marchesi en a collationné l'inscription au musée d'Ankara en 2013, et il a réussi à lire Yardunlim, fils de Bin Ami, roi de Karkemish. On a un autre fragment qui pourrait appartenir à la même statue et où il y a simplement les restes d'une formule de malédiction: que le dieu Addu détruise son nom. Eh bien, cette statue semble montrer que, contrairement à ce qu'on avait cru, Yardunlim n'était pas un fils de Aplaranda, donc un frère cadet de Yatar Ami. Et ceci oblige à reconsidérer le contenu de ARM 27162. C'est une lettre écrite par le général Zimri Addu, dont on a parlé l'année dernière, depuis Larsa, et qui raconte la réaction du roi de Babylone, Hammurabi, face à une demande de chanteuse qui lui parvint depuis Karkemish. Jean-Marie Durand et moi-même avions proposé des restitutions différentes de celles de Maurice Birot, et nous avions interprété le passage assez cassé comme montrant que le règne de Yatarami avait été très court du fait qu'il aurait été assassiné par son frère. Pour Marchesi, cette interprétation n'est pas possible si l'on admet que le Yardunlim de la statue fils de Bin Ammi, est le même que le Yardounlim de Karkemish, connu par les textes de Marie. Et donc, il a remis en cause notre interprétation, et je suis assez convaincu par ce qu'il a écrit. Et donc, si l'on intègre ces remarques, la nouvelle traduction du passage est la suivante. Un messager du fils d'Aplaranda, le sire de Karkemish, est arrivé ici et il a réclamé des musiciennes. Hammurabi a répondu ceci. C'est de musiciennes qu'il est en manque ? Ce n'est pas un gentilhomme. Pourquoi a-t-il souillé sa main de sang ? Hammurabi est très fâché contre le meurtre du fils d'Aplaranda, à comprendre comme le meurtre accompli par le fils d'Aplaranda. Et donc, selon Marchesi, dans cette lettre, on ne sait pas qui a été tué par le fils d'Aplaranda, mais il n'est pas question, comme nous l'avions cru, qu'on ait mention de deux fils d'Aplaranda, dont l'un serait le meurtrier et l'autre la victime. Et puisqu'il considère que Yardounlim est le fils de Bin Ammi, le fils d'Aplaranda dont il est ici question ne peut être que Yatar Ammi, mais on ne sait pas, on n'en sait pas plus sur ce meurtre. Revenons à Yardounlim, le dernier roi connu par les archives de Marie. Eh bien, on y a retrouvé trois lettres écrites à Zimrilim, et la plus ancienne montre que son avènement a été accompagné, selon la tradition, par la proclamation d'une Andurarum. Et on a la chance d'en être informé parce qu'elle a concerné directement le roi de Marie. Dis à Zimrilim, ainsi parle Yardounlim ton fils. Tu m'as écrit en ces termes à propos de l'Andurarum dont tu as eu connaissance. Fais-moi conduire 20 ou 30 domestiques. De mon côté, après l'Andurarum, je te ferai conduire des esclaves en remplacement pour eux. Voilà ce que tu m'as écrit. Pour instituer l'Andurarum, par crainte de, et là c'est le fameux passage où on pourrait lire le début du nom du dieu Nergal, et puis malheureusement la suite est très lacunaire. Donc voilà la lettre convoquée par Marchesi pour déterminer quelle était la divinité principale de Karkemish. Alors je vous rappelle d'abord que la lecture même du début du nom du dieu Nergal n'est pas sûre, mais même à supposer que cette lecture soit la bonne, la mention de Nergal en lien avec l'Andurarum qui clôturait la période de deuil après la mort du roi, comme je l'ai montré dans un article il y a 25 ans, eh bien, ça ne montre absolument pas que Nergal était la divinité principale de Karkemish. Le dieu pourrait parfaitement figurer ici en tant que divinité du monde des morts, et c'est à la fin du deuil donc que l'Andurarum est proclamé avec l'abolition des dettes et le retour des personnes prisonnières, etc. Alors, pour conclure, je ne mettrai l'accent que sur un des éléments du dossier qu'on a examiné aujourd'hui, qui a trait aux réseaux commerciaux. Jusqu'à présent, on pensait qu'il n'existait qu'une branche qui partait d'Assur, sur le Tigre, et qui ensuite irriguait toute l'Anatolie. Eh bien, il me semble que désormais, nous devons ajouter une branche plus au sud, qui partait de Sipar, qui remontait l'Euphrate via Marie, Himar et Karkemish, et on aura l'occasion d'en reparler lors du dernier cours consacré à Achour et Ekallatoum. Et donc, pour terminer, eh bien, je rappellerai qu'une des devises du Collège de France empruntée à Ernest Renan, c'est « enseigner la recherche en train de se faire ». Alors, en général, on comprend que le professeur fait ses recherches et puis il vient les exposer devant le public sans délai. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. La découverte que je vous ai exposée tout à l'heure à propos du Karoum de Sipar installé à Karkemish, je l'ai faite samedi en terminant de préparer le cours d'aujourd'hui. Et donc, c'est l'obligation d'enseigner qui m'a conduit à un approfondissement qui a abouti à cette nouvelle découverte. J'ai été très heureux de partager avec vous celle que j'ai pu faire à propos de Karkemish et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles aventures en Haute-Mésopotamie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.